Voilà. Donc nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Galates et aujourd'hui on va aborder le chapitre 4. Donc avant cela, on va prier. Tu dis toi-même, Seigneur, que celui qui a ta parole et qui la garde, c'est celui qui t'aime. Celui qui t'aime sera aimé du Père. Tu l'aimeras et tu te montreras à lui, à elle. Et comme je l'ai déjà prié ce matin, c'est vraiment ma prière ce matin, que d'une manière ou d'une autre, tu puisses te montrer. Montrer ta gloire, montrer ta beauté, parce que la grâce est répandue sur tes lèvres. Et c'est au travers de ta parole que tu nous parles. Donc, merci de l'accompagner de ton bon esprit. Amen.
Amen. Amen.
Donc ce matin, c'est un passage un petit peu long, donc je vais quand même surveiller l'horaire et toucher à un certain nombre de points dans Galates chapitre 4, versets 1 à 18. Alors on ne va pas tout examiner dans le détail, mais il y a quelques points sur lesquels j'aimerais mettre l'accent. Donc toujours pareil, c'est une traduction qui en français va vous sembler un peu bizarre. Hein, puisqu'elle est plus ou moins littéralement traduite de l'araméen. Or je dis que du temps que l'héritier est garçon, il n'est pas séparé des serviteurs de la maison, bien qu'il soit leur maître à eux tous. Mais il est sous des tuteurs et des intendants jusqu'au temps établi par le Père. Et retenez bien ce mot, le verbe « établir ». Ainsi, nous aussi, tandis que nous étions des enfants, nous étions asservis sous les éléments du monde présent. Or, quand est arrivé le terme de ce temps, la fin, Dieu a envoyé son Fils. Et ce Fils fut issu de la femme, il fut sous la loi, afin que ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire les Israélites, il les rachète et que nous obtenions d'être établis en tant que fils, deuxième fois qu'on entend ce verbe, afin que nous obtenions d'être établis en tant que fils. Or, du fait que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs. Et là, c'est intéressant, la conjugaison du verbe est au féminin. Elle, l'esprit, crie « Père, notre Père ». Donc, vous n'êtes plus des serviteurs ou des esclaves, mais des fils. Et si vous êtes des fils et des filles, vous êtes aussi héritiers de Dieu par le moyen de Jésus le Messie. Littéralement par la main de Jésus. Car ensuite, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous rendiez un culte à ceux qui de par leur nature n'étaient pas des dieux, c'est-à-dire les idoles. Or maintenant que vous avez connu Dieu, et d'autant plus même que vous avez été connu de Dieu, vous vous en retournez encore vers ces éléments faibles et pauvres, et à nouveau vous voulez vous y asservir. Point d'interrogation. Vous gardez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains pour vous, de peur de m'être fatigué vainement pour vous. Soyez comme moi, parce que moi aussi, j'étais comme vous, frères. En rien vous n'avez été un scandale pour moi, car vous connaissez que c'est dans l'infirmité de ma chair que je vous avais annoncé la bonne nouvelle. Et vous n'avez pas méprisé ni abhorré l'épreuve de ma chair, mais comme un messager de Dieu vous m'avez reçu, et comme Jésus le Messie. Où donc est votre bonheur? Car j'atteste à votre sujet que s'il avait été possible, vous auriez arraché vos propres yeux et me les auriez donnés. Est-ce que je suis devenu votre ennemi du fait que je vous ai prêché la vérité? Ils, c'est-à-dire les judaïsants qui troublaient l'église de Galate, ils sont zélés d'un zèle envieux envers vous. Ce n'est pas pour ce qui est excellent, mais c'est pour vous enfermer qu'ils veulent que vous soyez zélés envers eux. Or, il est excellent que vous soyez zélés pour toutes choses, en tout temps, et pas seulement quand je suis auprès de vous. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Il y a beaucoup de choses dans ce passage, et je vais, comme je l'ai dit, mettre l'accent sur quelques points seulement. D'abord, il y a un point de culture que j'aimerais soulever, lié à l'emploi, j'imagine, dans les traductions que l'on lit du mot « adoption ». Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends le mot « adoption », ça veut dire, si je me dis « je suis adopté », j'étais un étranger dans la famille et je suis adopté au sein d'une famille. Et ensuite, j'ai les droits de l'héritier dans cette famille. Mais donc, on trouve plusieurs fois le mot « adoption » dans le Nouveau Testament, Romains 8, Galates 4, comme on vient de le voir, Éphésiens 1. Et pourtant, le mot « adoption » dans le texte a un autre sens. Et ça, c'est un sens que j'aimerais mettre en avant, d'où l'accent que j'ai mis sur le verbe « établir ». Parce que dans les traductions en français, on ne saisit pas, je crois, ce dont il est question en fait. Et la coutume voulait, en particulier chez les Romains, la coutume était la suivante. Quand un fils naissait dans la maison, il était traité comme n'importe quel serviteur de la maison. Et le père avait droit de vie et de mort sur son fils. Et rien ne le distinguait des autres personnels de la maison. Et ce n'est que quand l'enfant, à l'adolescent, ayant fait ses preuves, c'est à ce moment-là que le père va le désigner comme son héritier. Donc vous voyez que l'enfant, au départ, il est potentiellement le maître de tout et l'héritier de la maison, mais tant que le père n'a pas dit « maintenant, vous allez lui obéir comme vous m'obéissez, maintenant, voilà. » Et d'un seul coup, il prend la place de fils et d'héritier et de maître de la maison. La veille, il était encore mis au rang des serviteurs comme les autres. Vous voyez ? Ça veut dire, et ça, c'est ce dont il est question quand il est question d'adoption ici. Donc ce n'est pas un enfant étranger à la maison. C'est bien l'enfant de la maison, mais qui, tant qu'il n'est pas, on dirait aujourd'hui, majeur, tant qu'il n'est pas majeur, et là, à l'époque, c'était plutôt vers 13, 14, 15 ans, quand l'enfant devenait mûr et commençait à comprendre la gestion de la maison, etc. Le père, comme je l'ai dit, l'associait. Donc on dirait en français moderne, il devenait majeur, même si la majorité aujourd'hui, elle est très tardive par rapport à ce qu'elle était à cette époque-là. Donc c'est ça dont il est question. Et donc quand il est dit, voilà, l'héritier, tant qu'il est garçon, il n'est pas distingué des serviteurs, bien qu'il soit le maître de tous. Mais il faut que le père le dise, et à l'adolescence, pour que l'enfant devienne le maître de tous. Et donc là, ça pose une question intéressante quant à l'adoption. C'est ce qui s'est passé pour Jésus lui-même. Remarquez que jusqu'à l'âge de 30 ans, complètement anonyme, à part à l'âge de 12 ans au temple, mais autrement, une vie anonyme, et c'est au moment de son baptême, dans Matthieu 3, verset 17, qu'il est dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est à partir de là, de cette parole déclarative du Père à l'égard de son fils, qu'il commence son ministère et qu'il prend la responsabilité de nouvel Adam, de celui qui allait sauver l'humanité. Vous voyez, on trouve ce parallèle qui est intéressant. C'est intéressant également que le fils, dans l'Ancienne Alliance, apparaissait sous la forme du fils de l'homme ou certainement de l'ange de l'Éternel. Vous voyez ? Mais il n'apparaissait pas comme le fils de Dieu. Il va falloir la nouvelle alliance pour qu'il soit établi en tant que fils. Je reprends ce verbe-là. Et donc ça pose une question qui est intéressante pour nous. Parce qu'il y a souvent cette idée un peu que les Israélites de la première alliance sont les fils légitimes et nous, venant des nations, nous sommes quelque part une pièce rapportée sur l'olivier qui représente Israël. Là, ce que je viens de vous dire induit une autre lecture. Le Seigneur connaît d'avance ceux qui lui appartiennent, autant parmi les Israélites que parmi les nations, il n'y a pas de distinction. Simplement, tant qu'on n'a pas reçu l'appel, comme le dit Paul dans Éphésiens, nous étions des enfants de colère comme les autres et rien ne nous distinguait des autres jusqu'au moment où le Seigneur nous adresse son appel. Mais évidemment, tout n'est pas joué à l'appel. Hein, ce n'est que l'appel. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, je le rappelle. Donc, et c'est là que viennent ensuite toutes ces paroles de repentance, d'entrée dans la vie de l'esprit, de persévérance jusqu'au bout pour hériter de la vie éternelle, hériter de ce jardin d'Éden dont on a entendu parler tout à l'heure. Ça veut dire vivre dans la présence du Seigneur. Donc l'héritage, il vient au bout de cette marche dont Jésus est le chemin. Donc le chemin, ce n'est pas au moment de l'appel. Le chemin, c'est tout le long jusqu'au moment où on quitte son corps. Il ne faut jamais se relâcher de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le premier point que je voulais mettre en avant, qui est cette notion d'adoption. Donc pour moi, depuis le départ de ma vie chrétienne, quand je lis les traductions françaises avec le mot adoption, ça m'a toujours gêné. Et ce n'est qu'à partir de la lecture, à partir de 2009, à partir de la lecture dans l'araméen, que j'ai réalisé, mais non, en fait, ce n'est pas l'adoption telle qu'on l'entend habituellement, mais c'est bien Dieu nous a connus d'avance. Nous sommes déjà fils, mais tant qu'il ne nous a pas encore appelés, nous sommes sous les éléments et les rudiments du monde, pécheurs comme les autres, et indistinguables à vue humaine des autres. Et c'est l'appel du Seigneur qui va marquer ensuite la différence. L'initiative, elle vient bien de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Nous ne pouvons pas nous appeler nous-mêmes. Et Paul fait cette, j'allais dire, cette dialectique entre Israélites et nations païens, justement dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, dont je vous les lis en vitesse. Parce que là aussi, quand j'ai relu ça, il y a une chose qui m'a frappé. Ce sont les pronoms personnels. Souvent, on lit la Bible vite, et on oublie que nous et vous, ce n'est pas pareil. Vous allez comprendre. Vous, Paul parle à des Éphésiens, donc à des païens. Vous, donc je complète. Vous, païens, vous, des nations, qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Là, il a parlé des nations. Parmi lesquels nous, les Juifs, tous aussi, nous avons vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, faisant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère, aussi bien que les autres, autrement dit, aussi bien que vous. Voilà, il y a bien, Paul lui fait bien la distinction, nous ne valions pas mieux. Donc voilà, c'est pour dire que pour Dieu, que l'on soit israélite ou qu'on soit des nations, voilà, on est sur le même plan pour ce qui est de la nature pécheresse, et c'est l'appel de Dieu qui va faire la distinction et parmi les Israélites et parmi les gens des nations. Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever, donc qui concerne les 5 premiers versets. Et donc maintenant, je relis juste ces deux passages maintenant qu'on connecte avec ce que je viens de dire. Donc, l'enfant de la maison était sous des tuteurs et des intendants jusqu'au temps établi par le Père, c'est-à-dire le moment où il va déclarer « Maintenant, c'est mon héritier. » Et le verset 5, « Afin que ceux qui sont sous la loi, ils les rachètent et que nous obtenions d'être établis en tant que fils. » Voilà, c'est ça la traduction littérale dans les deux cas. Et là, de suite, on a le mot « établi » qui vient à quelques versets d'écart et on fait immédiatement le lien. C'est ça qui est intéressant quand on regarde un peu le texte, non pas la traduction, mais le texte qui est derrière, c'est qu'on fait des liens là où on ne le voit pas forcément dans les traductions. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Abraham. À un moment donné, Abraham a établi Isaac comme son héritier. Mais il y avait une difficulté, parce que 14 ans avant qu'Isaac naisse, qui est né dans la maison d'Abraham ?
Samuel.
Qui est le demi-frère d'Isaac ? C'est Ismaël. Oui, oui, j'ai bien compris. C'est Ismaël qui est né 14 ans avant et qui était donc normalement l'héritier de la maison. Et c'est bien ce que Sarah a craint. Et c'est pour ça qu'elle a fait chasser Agar, la mère d'Ismaël, et Ismaël, parce qu'elle craignait qu'Ismaël prenne la place d'héritier de la maison. Et donc ce n'est qu'ensuite, quand Isaac est devenu mûr, qu'il a pu être déclaré l'héritier de la maison et le demi-frère aîné a été chassé. Voilà, c'est la parole qui nous relate par ailleurs qu'il y avait une jalousie. Ismaël était jaloux d'Isaac et c'est pour ça que Sarah a pris peur et elle a fait éloigner Ismaël. Donc voilà la notion de fils, ce qui pose des questions intéressantes. Je ne vais pas du tout entrer dans le sujet, mais sur la question de l'élection, à nouveau. Et je le mentionne parce qu'il sera question de connaître et d'être connu de Dieu ensuite. Et voilà, si Dieu nous connaît d'avance, c'est que nous sommes déjà fils. Mais tant qu'il ne nous a pas appelés, nous sommes esclaves comme les autres. Gardons simplement cette pensée-là. Comment savons-nous que nous ne sommes plus esclaves, mais que nous devenons enfants de Dieu? Il est dit au verset 6, parce que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils, qui est l'héritier par excellence, qui est l'héritier par nature. Il a envoyé son Esprit qui crie en nous, Père, notre Père. D'où ma prière au départ. Celui qui a la parole, c'est Jésus qui dit, celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime, Jean 14. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Après la rencontre avec Jésus, c'est la figure du Père qui doit émerger dans nos vies, qui nous amène à la fidélité, il a été question de fidélité tout à l'heure, et qui nous amène à l'obéissance, l'apprentissage de l'obéissance, l'obéissance qui commence par la repentance. Et c'est dans cette dimension-là, de soumission au Père et de découverte au Père, que vient ensuite la dimension de l'Esprit. Tout ne vient pas comme ça d'un coup, voilà, tout est fait au moment de la conversion, comme on le croit souvent. Non, c'est un chemin, Jésus est un chemin. Ça commence par la découverte du Fils qui nous amène au Père, et le Père, via le Fils, nous donne son Esprit. Il y a un chemin, et ça se fait en gardant la parole, en obéissant à la parole. Et c'est ce que l'on voit ici. Étant unis à celui qui est l'héritier par excellence, le Fils, le Père nous donne l'Esprit du Fils qui crie en nous « Père, Abba, Abba, Père ». Et comme le dit Paul ensuite au verset 6 et 7, quand nous recevons cet Esprit qui peut véritablement dire dans notre cœur « Abba, Père », c'est qu'effectivement nous sommes devenus fils et nous ne sommes plus esclaves. Esclaves du péché évidemment. On retrouve la même idée dans Romains 5, exprimée d'une autre manière. Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, on vient de chanter un cantique sur la paix, par notre Seigneur Jésus, et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. C'est cet Esprit-là qui va sceller le fait que nous devenons héritiers, que nous sommes passés d'héritage à fils et filles. Et donc, comme je l'ai mis dans mes notes, la réception de l'Esprit, c'est ce qui nous fait passer de la minorité à la majorité. C'est ce qui rend de nous majeurs. C'est ce que l'on voit, ce passage-là. On le voit dans la première épître de Jean, donc j'avais déjà commenté, au chapitre 2, verset 14. Vous vous souvenez de la gradation entre les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. C'est intéressant que Jean distingue ces trois étapes-là. Et il disait en particulier au niveau des jeunes gens, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. » À nouveau, c'est ce que dit Jésus dans Jean 14. « Et vous avez vaincu le malin. » C'est-à-dire qu'à partir de là, quand la parole de Dieu demeure en nous, que nous devenons forts en Jésus, faibles en nous, mais forts en lui, et que nous avons vaincu le malin, nous sommes capables d'opposer la parole de Dieu au mensonge du malin, c'est là que nous passons de l'enfance à cet âge de maturité qui nous permet d'engager la vie chrétienne. Jusque-là, nous étions des enfants, et à partir de là, quand la parole demeure en nous, c'est là que vient l'âge de maturité, l'âge de majorité, et que nous entrons, par exemple, au service de Dieu. Alors, je continue le texte, dans cette fois les versets 8 à 12, et je vais les résumer en une pensée centrale. Paul, évidemment, était très interpellé, voire déçu de voir à quel point les Galates pouvaient être facilement détournés de la voie qui est Jésus. Je rappelle que la voie, c'est le nom donné dans le livre des Actes pour la vie chrétienne. Donc on ne disait pas justement les chrétiens. Les chrétiens, c'était un sobriquet à l'époque. C'était une manière de dire, oui, ils se prennent pour des petits ouins, quoi. Mais le terme, c'était la voie, ceux qui suivent la voie, ceux qui suivent Jésus. C'était, alors, déjà là, les disciples avaient intégré, c'est une marche. Ça, je vais marcher toute ma vie. Il n'y a pas un moment où je m'arrête, un moment où je franchis un cap. Non, c'est une marche et je ne m'arrête pas. La voie. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », c'est le même mot employé, la voie. Et Paul, donc, était assez décontenancé par ce que les Galates faisaient. Et donc, il va leur dire la chose suivante. « Maintenant que, après avoir été païen, maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de lui, pourquoi vous retournez à ces éléments faibles et pauvres, et pourquoi voulez-vous à nouveau vous asservir en comptant les jours, les mois, les temps, les années ?» Alors évidemment, dès qu'on lit « compter les jours, les mois, les temps et les années », on pense immédiatement évidemment aux fêtes juives avec le sabbat, tous les samedis, les grandes fêtes de l'Éternel, etc. Et Paul dit « mais tout ça, c'était l'ombre dans Colossiens 2. Ça, c'était l'ombre. La réalité, maintenant, elle est en Jésus. Le sabbat, c'est tous les jours. Entrer dans le repos, Hébreux 3 et 4, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où je peux me reposer et les six autres jours, je peux faire n'importe quoi. » Le sabbat, c'est tous les jours. Le repos en Jésus, c'est tous les jours. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos. Il ne dit pas simplement, venez à moi le samedi, et le reste du temps, faites ce que vous voulez. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, quel que soit le jour de la semaine, vous trouverez le repos, vous entrerez dans mon sabbat. Donc là, il dit, mais maintenant que vous avez connu Dieu, et intéressant, Paul se corrige. C'est comme s'il se disait, oui, bon, avant il connaissait des idoles, maintenant il connaît ce Dieu, et je crains en fait qu'il n'ait pas compris que connaître le Dieu vivant n'a rien à voir avec le fait de rendre un culte à des idoles. Donc il renverse la chose. Non, plutôt, maintenant que vous avez été connu de Dieu, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que être connu de Dieu, est-ce que quelqu'un peut... Qu'est-ce que ça vous évoque quand on dit être connu de Dieu ? Oui. Ça vous évoque quoi ? Comme pensée ?
La nouvelle naissance.
Mm-hmm. Donc, Jean-Louis dit la nouvelle naissance. Je le dis pour le micro. Plus simplement, enfin plus...
Ben, ça me fait penser en fait que Dieu témoigne que nous sommes ses enfants, mais sans l'esprit, par un autre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Donc...
Mm-hmm.
Moi, je sens qu'il est avec moi, c'est tout.
Oui. Alors, quand je lis maintenant que vous avez été connu de Dieu, j'ai vraiment l'idée de... Maintenant qu'il a envoyé son esprit pour sonder le cœur et les reins. Donc, il y a vraiment, et excusez-moi d'être aussi direct, il y a l'idée de pénétration, l'idée de sonder, quand Adam connaît Ève. Là, Dieu... nous sonde, Dieu nous connaît, il entre en nous et met sa lumière en nous, il met sa lumière dans notre cœur. Et donc c'est en étant connu de Dieu que nous connaissons à nous, que nous commençons à nous connaître nous-mêmes. Et c'est là que souvent on recule, parce que être connu de Dieu ne peut que nous amener à la repentance. Quand il envoie sa lumière en nous et qu'il commence à sonder nos cœurs et nos reins, c'est pour aussi nous montrer ce que nous sommes en nous-mêmes. Et comme je le dis souvent dans mes messages, en envoyant sa lumière pour nous montrer ce que nous sommes nous-mêmes, il nous montre également qui il est. On ne peut pas voir Jésus sans nous voir nous-mêmes. Parce que c'est en nous voyant nous-mêmes à la lumière de l'Esprit, à la lumière de la parole de Dieu révélée par l'Esprit, à la lumière de ce miroir qui nous montre notre visage naturel, c'est là, il n'y a que comme ça, que l'on peut prendre conscience de ce qu'est notre chair, réaliser à quel point elle est irréformable, et combien d'efforts on fait, ça c'est l'effort du religieux, pour essayer de nous réformer nous-mêmes, plutôt que d'avoir le regard sur Jésus en disant une bonne fois, ça c'est de la boue, je ne peux pas le changer, je n'y peux rien, c'est la chair, mais toi. Toi, tu es l'homme nouveau. Toi, tu es celui qui régénère mon être intérieur pour le métamorphoser comme il est dit dans 2 Corinthiens, à ton image. Autrement dit, le chrétien ne vit plus en regardant constamment au passé et à sa chair et à son histoire et à ses traumas et ses déterminismes et tout le reste, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais il regarde en avant parce que justement il a vu sa vie ancienne, sa vue adamique, sa vue pécheresse à la lumière de l'Esprit de Dieu. Il a été connu de Dieu, et ayant été connu de Dieu, sondé de Dieu, il peut lâcher parce qu'il voit autre chose. Il voit le Seigneur Jésus. Il voit en Jésus la promesse de ce que nous allons être. Autrement dit, il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre ce que dit Paul, laissant les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a que comme ça. Ce n'est pas parce que les choses anciennes sont changées et transformées pour devenir des choses nouvelles. C'est parce qu'il y a une rupture radicale quand Dieu intervient dans notre vie, pour lorsqu'il nous connaît, lorsqu'il nous sonde et qu'il nous montre ce que nous sommes naturellement parlant, j'allais dire charnellement parlant, et que Jésus émerge en nous. On va retrouver ça un petit peu plus tard quand Paul va dire mais j'éprouve à nouveau pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Messie soit formé. Donc chez les Galates, chez certains en tout cas, le Messie n'était pas encore formé. Et la question, est-ce qu'il est formé en nous ? Est-ce qu'il est formé en nous ? Est-ce que nous nous laissons sonder par l'Esprit de Dieu pour connaître une bonne foi ce que nous sommes en nous-mêmes ? C'est-à-dire des pécheurs qui n'avons aucune puissance sur notre chair, mais qui, par l'Esprit de Dieu, on verra ça dans Galates 5, par l'Esprit de Dieu et la marche par l'Esprit, nous pouvons laisser de côté ce qui relève de la chair. Pour le dire d'une autre manière, d'une manière simple, le religieux essaye de transformer sa chair pour devenir spirituel. Le chrétien se laisse sonder par l'Esprit de Dieu pour laisser la chair irréformable de côté et vivre selon l'homme nouveau en regardant à celui qui est la promesse de ce que nous deviendrons bientôt. Donc voilà, être connu de Dieu, je le prends vraiment au sens fort et avec un fort impact dans notre vie. Le premier de ces impacts-là étant la repentance, qui est la porte d'entrée de la vie chrétienne. Et malheureusement, je crains que beaucoup d'églises et beaucoup dans les églises, en fait, je crois que c'est la caractéristique de l'église, du temps dans lequel nous vivons actuellement, qui est le temps de Laodicée, si je reprends la série des 7 lettres que Jésus a adressées aux 7 églises, le temps de Laodicée, c'est un temps justement de mélange où on est un peu paumé. On ne sait plus ce qu'est la porte d'entrée de l'évangile. Jean-Baptiste et Jésus ont commencé chacun leur ministère par le même mot, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Mais pour ça, il faut se laisser sonder. Pour ça, il faut se mettre devant Dieu en disant, je viens à toi tel que je suis. Tu me vois tel que je suis, donc j'arrête la comédie. Positionnellement, je suis ici, tu me vois au travers de machin. Non, je viens à toi tel que je suis. Montre-moi ce que tu vois. Montre-moi comment avancer. Je viens à toi tel que je suis. J'arrête la comédie du chrétien avec un beau visage le dimanche et la semaine, je vis autre chose. Non, je viens à toi tel que je suis. Tant on peut, parce qu'on le chante dans un cantique. Hein. Tel que je suis. Voilà, on le chante. Mais est-ce qu'on le fait vraiment ? Est-ce qu'on demande vraiment à ce que Dieu nous connaisse ? À ce que Dieu mette sa lumière sur notre vie ? Il n'y a que comme ça qu'on peut la lâcher. Hein. Tant qu'on n'accepte pas cette lumière-là, on continue dans, je le dis, cette espèce de mélange de Laodicée. On mélange un peu de bouillant et beaucoup de froid. Le bouillant de choses spirituelles et le froid de la chair. Et on se retrouve dans une espèce de tiédeur entre les deux. Et pour faire le lien avec le message de la dernière fois, il y a un mois, on est un pas dans Canaan et un autre pas dans l'Égypte. En fait, on est coincé dans le désert et on n'en sort pas. On tourne en rond et on n'avance pas. Alors Jésus, comme je l'ai dit, est un chemin. Donc c'est une dynamique et on doit marcher dans ce chemin. Ne pas marcher, c'est reculer. C'est important hein, parce que on peut faire beaucoup de choses pour Dieu et même Dieu, ça c'est assez terrible, peut faire beaucoup de choses au travers de nous sans que nous connaissions Dieu du tout. Je vous rappelle Matthieu 7, « Mais n'avons-nous pas prêché dans tes rues, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci et cela ?» Et Jésus leur dit quoi ? Je ne vous ai pas connu. Qui êtes-vous ? Je ne vous ai pas connu. Mon esprit, ma lumière n'est pas entrée en vous. Je ne vois pas, je vois. Qui êtes-vous ? Et pourtant, ils ont prêché, ils ont chassé des démons, ils ont prophétisé, ils ont fait beaucoup de choses. Comme quoi, faut pas se tromper. Le point fondamental de la vie chrétienne, c'est d'être connu de Dieu et de le connaître en retour. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 13, et je change de sujet. 1 Corinthiens 13, il dit « Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir, d'une manière obscure. » Parce qu'on est un peu troublé, on est pris entre la chair et l'esprit. « Mais alors, quand Jésus revient, nous le verrons face à face. » Là, il n'y aura plus le voile de la chair. « Aujourd'hui, je connais en partie. » Et ça, il faut admettre que nous ne connaissons qu'en partie. Ça, c'est important, parce qu'avec ceux qui viennent avec leur grand système théologique qui donne les réponses à tout, là, la parole me dit non. Je ne connais qu'en partie. Il faut accepter que nous ne connaissions qu'en partie. Mais alors, dit Paul à la venue de Jésus, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors, on retrouve cette... Mais là, cette fois, la symétrie sera complète. Je le connaîtrai intimement comme il m'a connu intimement. Je dis toujours que la vie chrétienne, c'est une question d'intimité entre deux êtres, entre Jésus qui se donne à nous et nous qui devons nous donner à lui en retour. Alors, il va dire aux Galates également, je recherche le passage, oui, soyez comme moi, parce que moi aussi, j'étais comme vous. Voilà, il y a plusieurs manières de comprendre ça, mais une des manières de le comprendre, vous étiez tenté, j'ai été tenté par le légalisme, par l'observation de la loi, donc je vois bien que vous l'êtes tenté aussi. Ben, soyez comme moi, maintenant que je me suis dégagé du joug de la loi, parce que j'étais comme vous. Moi aussi, je voulais me mettre sous le joug de la loi. Mais je vous ai montré un autre chemin. Je vous ai dépeint Christ et Christ crucifié. Pourquoi retournez-vous aux choses élémentaires de la loi, les jours, les mois et les années? Ensuite, c'est intéressant que Paul dit, il mentionne une infirmité. Et il dit même que c'est à l'occasion de cette infirmité que pour la première fois, j'ai pu vous parler de l'évangile. Donc là, je vais passer vite. Pour ma part, mais vous pouvez ne pas être d'accord, je pense que cette infirmité était vraiment liée à ses yeux. J'ai toujours, quand j'ai lu ces passages-là, d'abord, c'est intéressant que lorsque Jésus l'appelle, la chose qu'il va frapper, ce sont les yeux. Il va le rendre aveugle. Et quand Ananias, quelques jours plus tard, va prier, il y a des écailles qui vont tomber des yeux. Mais la première chose qui est frappée chez Paul, c'est la vue. Alors, il y a différentes manières de parler de la vue. Évidemment, il y a la vue physique, mais c'est surtout également une image de la vue intellectuelle, la lumière de la raison. Et entre la vue physique et la lumière de la raison, Jésus va lui montrer une troisième lumière, la lumière de l'esprit, la lumière de la vie. Mais ce sont les yeux qui sont frappés. Moi, ça m'a frappé, ça. Et on peut se demander si ce n'est pas suite à cet épisode-là qu'il va garder une trace dans son corps qui va constamment le ramener à cette expérience du jour où Jésus l'a rencontré. C'est une hypothèse, hein? Mais peut-être que les problèmes d'yeux qu'il avait ensuite sont liés et à chaque fois le ramener à ce moment où il a été ébloui, puis devenu aveugle en voyant Jésus sur la route de Damas. C'est une hypothèse, hein, comme pour le ramener à chaque fois à cet épisode-là. En tout cas, je constate que, par exemple, et c'est assez frappant, moi ça m'a frappé depuis très très longtemps, autant dans 1 Corinthiens 16, Galates 6, Colossiens 4, 2 Thessaloniciens 3, Philémon 1, Paul doit écrire, voyez là, j'écris de ma propre main. J'ai signé de ma propre main. Comme si, il avait du mal à cause de ses yeux, il avait du mal à écrire lui-même, ça lui coûtait. Et donc il avait peut-être un frère qui, il dictait un frère, mais ensuite il faisait l'effort quand même de mettre sa propre signature. Et ça lui coûtait. C'est frappant de voir combien de fois il dit ça. Il dit même dans Galates 6, on le verra à la fin, « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit. » Et moi, je prends ça de manière littérale. Il a écrit avec des grandes lettres, s'il avait du mal à écrire. Donc, voilà, le sentiment que j'ai, c'est que Dieu l'a frappé à un endroit sensible, l'a vu, elle est quand même importante pour nous, et qu'ensuite, voilà, alors comment s'est traduit cette infirmité ensuite, on n'en sait rien, mais, en tout cas, c'était une infirmité, et peut-être qu'à ces problèmes Dieu venaient également des problèmes de migraine, vraiment quelque chose qui le pesait, et qui était là pour l'humilier et le garder dans la faiblesse, et je fais le lien donc avec 2 Corinthiens 12, où il dit « Je me glorifierai de mes infirmités ». Et il parle même d'une écharde mise dans la chair, un messager de Satan pour le souffleter. Et pour ma part, je comprends ça comme peut-être effectivement voilà, quelque chose qui l'affectait énormément au niveau de, sans doute, de la tête, donc avec un messager. Et c'est frappant parce que il dit aux Galates « Vous m'avez reçu comme un messager de Dieu ». Mais il sait par ailleurs qu'il était harcelé par un messager de Satan. Et que ce messager de Satan était là pour le garder dans l'humilité à cause de l'excellence des révélations que Dieu lui avait faites. Mais il apparaissait donc intérieurement harcelé par un messager de Satan. Et à l'extérieur, à l'égard des Galates, il apparaissait comme un messager de Dieu. Étonnant comme contraste. Et donc, dans la Bible annotée de Neuchâtel, justement, il y a la même hypothèse qui est trouvée. Ça veut dire une infirmité corporelle et sans doute liée, qui lui causait une douleur indicible et qui était extrêmement humiliant. Et c'est dans cette position de faiblesse et d'humiliation que les Galates l'ont rencontré pour la première fois. Ce qui fait écho, souvenez-vous, à ce que dit Paul dit aux Corinthiens. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, alors, c'est dans quel sens Oui, vous trouvez que mes lettres sont fortes, directes, et quand je suis au milieu de vous, vous me trouvez faible. Voilà, il y avait ce contraste, les lettres de Paul sont sévères et fortes, mais quand il vient parmi nous, on voit voilà, un être faible, infirme, dans les tourments physiques. Voilà, il y avait ce contraste, et peut-être encore que c'est lié à cette infirmité. Voilà, je ne vais pas développer plus.
C'est pour ça qu'ils leur disent, en fait, alors si je comprends bien, vous vous seriez arraché les yeux pour
me... Oui, voilà, et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec les yeux. Vous seriez arraché les yeux si vous aviez pu pour me soulager dans mon infirmité. C'est là que je fais le lien à nouveau avec les yeux. Les yeux frappés au moment où Jésus lui apparaît, et là, il rementionne à nouveau les yeux. Et on sait souvent que tout ce qui tourne autour des yeux tourne également autour des douleurs au niveau de la tête. Et pour ceux qui sont un temps soit peu intello et qui ont l'habitude de réfléchir, vous savez sans doute que la pire des choses, ce sont les maux de tête. Quand on est habitué à réfléchir, voilà, quand on est dans son monde intérieur, la pire des choses qui puissent arriver, c'est quand on a vraiment des maux de tête sévères. Donc peut-être que le Seigneur avait mis cette écharde-là pour garder Paul dans la faiblesse. Et enfin, je termine avec cette pensée. Est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous prêchant la vérité? Alors, on a souvent parlé de voilà, ces deux thèses et antithèses que sont dire la vérité sans amour. Ça, c'est le légalisme. Alors, on assène la parole parce que la loi, c'est la loi, la parole, c'est la parole. Et inversement, l'amour sans la vérité. Donc là, ça conduit à noyer tous les problèmes parce qu'on pense qu'en aimant, en aimant et en aimant, en fait, ça va résoudre les problèmes. Des fois, il faut confronter avec la parole. Mais il faut le faire avec amour. Donc là, Paul a dit la vérité aux Galates. Il l'a très certainement dit avec amour. Et pourtant, les Galates ont réagi d'une mauvaise manière, mais parce qu'ils étaient sous l'influence d'un levain étranger, celui des judaïsants qui voulaient les soumettre à eux. Ils sont zélés d'un zèle envieux. Je vous rappelle que le mot zèle et le mot jalousie, en fait, c'est la même étymologie. C'est pareil, donc jalousie et zèle. Et là, pour ceux qui ont connu un petit peu des milieux sectaires et comprennent très bien ce que Paul est en train de dire, ils veulent vous détacher de moi pour vous asservir à eux. Et là, celui qui disparaît dans l'équation, évidemment, c'est Jésus. Et Jésus est notre seul intermédiaire entre nous et Dieu. Et là, ces judaïsants voulait en fait détacher les Galates du message de libération en l'Évangile et il voulait les soumettre à eux. Donc Paul, pour remédier à ça, donc cet amour sans vérité, cette vérité sans amour, alors c'est pas lui qui va le dire, même si je pense qu'il est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais dans Hébreux 10, on trouve cette parole-là, « Exhortons-nous les uns les autres ». S'exhorter les uns les autres, c'est nous dire la vérité les uns aux autres, c'est-à-dire, alors c'est pas dire les quatre vérités, hein, c'est partager des paroles qui vont nous édifier, qui vont nous piquer, qui vont nous reprendre, qui vont nous encourager. Exhortez-vous les uns les autres. Donc c'est une manière très simple de dire la vérité dans l'amour. On fait partie, comme tu l'as dit Abdel tout à l'heure, du même corps. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc nous sommes là pour nous aider. Si on n'a pas cette mentalité-là de nous aider les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres, alors ça veut dire que le levain de la division est déjà là. Donc faisons attention à ça. C'est Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, donc le pasteur allemand de l'entre-deux-guerres, non, qui est mort à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc la première moitié du XXe siècle, qui disait qu'entre deux frères, c'est dans de la vie communautaire, entre deux frères, il doit toujours y avoir cet espace pour Jésus. Ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Voilà, il y a cet espace pour Jésus. Et les judaïsants qui voulaient séduire les Galates voulaient réduire cet espace et les soumettre les Galates directement à eux en supprimant l'intermédiaire qui est Jésus. C'était toute la problématique de l'Épître aux Galates, de ces judaïsants qui voulaient asservir les Galates à leur propre fin. Et c'est intéressant parce que le terme jaloux, le terme zélé, on le retrouve dans Jacques 4 au verset 5. Dieu est jaloux, Dieu est zélé pour l'esprit qu'il nous donne. Et donc face à des judaïsants, nous devons devenir jaloux de l'esprit que Dieu nous a donné, parce que c'est cet esprit-là qui nous permet de voir Jésus et de le garder comme le seul intermédiaire entre nous et le Père. Et si nous ne faisons pas gaffe, si nous n'avons pas ce zèle et cette jalousie à l'égard de l'esprit de Dieu, comme Dieu lui-même est zélé et jaloux à l'égard de son propre esprit, alors ben, c'est comme ça qu'on entre dans un cycle de chair religieuse, de légalisme. Ça peut aller très loin. Quand on commence à prendre ce levain-là, ça va très loin. D'où la prière que j'avais tout à l'heure à l'égard de la scène. Jésus est un pain sans levain. Souvent, je me le dis, il s'est offert comme un pain sans levain, afin que nous soyons pain sans levain. Et on sait ce que Jésus disait du levain dans les évangiles, c'est le levain de la religiosité, c'est le levain des pharisiens, c'est le levain de la religion charnelle qui n'est tout sauf la vie de l'esprit. Voilà, je vais conclure avec cela.